Voilà, nous allons commencer. On risque d'avoir quelques personnes qui vont arriver en retard. Il paraît que le bucle, c'est assez compliqué. Alors, on s'est mis ensemble à l'écoute de l'Écriture, des pères de l'Église, de quelques théologiens, du magistère. Il reste encore un lieu théologique à l'intérieur duquel l'intelligence de la parole de Dieu se livre. Et c'est la liturgie. Et donc, je vais conclure avec la liturgie. Quelle dernière parole donnée ? Celle que l'Église donne chaque jour. Alors, il y a un adage bien connu qui dit ceci, « Lex orandi, lex credendi », c'est-à-dire la loi de la prière et la loi de la foi. Et donc, étudier la liturgie permet une meilleure compréhension de la foi de l'Église. Et si c'est vrai pour la foi, c'est vrai aussi pour ce qui concerne les traités des fins dernières, qui touchent ici à l'espérance de l'Église, à ce qu'elle croit et désire dans l'avenir. Et donc, en ce sens, on pourrait dire lex orandi, lex sperandi. La loi de la prière, c'est aussi la loi de notre espérance. La liturgie n'est pas seulement un lieu où l'Église dit sa foi et son espérance, c'est un lieu où elle le vit en acte. Très différent du coup d'une question de saint Thomas d'Aquin, d'un écrit de Karl Rahner ou autre chose. Il y a une tonalité existentielle dans la liturgie, et on le voit notamment par le choix du vocabulaire. Donc c'est vraiment en tant qu'acte profond de l'homme concret qu'il faut recevoir la liturgie. Deuxième chose, quand on parle de liturgie, il faut résister à une tentation, c'est de vouloir une belle synthèse. On aurait fait le tout, tout serait bien, c'est bon, on aurait tout. Non, la liturgie n'est pas de l'ordre de la synthèse parfaite, c'est pas son but. Si elle reprend effectivement toute la foi, toute l'espérance, c'est à la manière du symbole. Qu'est-ce que c'est que le symbole ? C'est quand toutes les parties de la réalité sont ensemble. Et donc, je ne peux pas séparer les choses. Une erreur qu'on fait régulièrement aujourd'hui, c'est de vouloir tout limiter à l'intelligence, c'est d'oublier le corps, l'affectivité, l'imagination. Tout est dedans. Et tout se trouve par excellence dans la liturgie. Le propre du symbole, c'est d'opérer, et de la liturgie aussi, c'est d'opérer une intégration de l'homme au mystère. La liturgie, elle est mise en contact avec Dieu. On ne parle pas seulement de Dieu, on parle à Dieu. Et cela grâce au symbole. Donc toutes les dimensions de l'homme sont convoquées. L'essence, l'imagination, l'affectivité, la mémoire, l'intelligence, la volonté, la liberté, le langage, la société, l'histoire et le corps, tout est là. Et donc, il n'y a pas à s'étonner d'être débordé et dépassé. Quand nous sommes dans l'acte liturgique, nous sommes débordés par ce surcroît qui va dans tous les sens. Alors, l'intelligence peut en souffrir d'une certaine manière, en même temps, c'est plus complet. C'est justement la richesse de la liturgie que de dire le mystère de manière surabondante. Alors, par liturgie, il faut qu'on dise, on va étudier la liturgie, on a tout dit, on n'a rien dit du tout. Parce qu'il n'y a pas une liturgie, il y en a plusieurs. Et liturgie catholique, j'entends. Hein ? À l'intérieur de l'Église, il y a une grande diversité de rites. Donc, à côté du rite romain que nous connaissons bien, qui est le plus familier, il y a les rites ambrosiens, mozarabes, zaïrois, cartusiens, syriaques, gréco-catholiques, arméniens, syro-malabares, coptes, et encore peut-être d'autres dont je ne cite pas ici. Donc, il y a tous ces rites-là, et la plupart de ces rites ont une histoire. la forme du rite romain a beaucoup changé au cours des siècles. Et les changements les plus récents sont notables. Hein, ce sont ceux qui ont suivi Vatican II, et un de ces changements, c'était le fait qu'on a commencé à prier en français. Donc il y a une variété immense de la liturgie qui illustre sa catholicité, son universalité. Cette variété, cette diversité est aussi bien spatiale que temporelle. Chacun riche d'enseignements. J'ai été par exemple très marqué lors de funérailles en rite galéen, je crois. On a compris en arabe et heureusement il y avait une traduction en français. C'était d'une beauté impressionnante. Et donc ici, je vais me limiter au rite actuel de langue française. Alors, on va d'abord travailler le missel romain et ensuite le rituel des funérailles. On pourrait parler du sacrement des malades, de la liturgie du temps présent. Mais voilà, il faut se limiter. Donc, de nouveau, quand on lit le missel, quand on lit le rituel des funérailles, il ne faut pas les lire comme un manuel de théologie. Ils sont d'abord éminemment pratiques. Le but premier n'est pas de transmettre un savoir, il vise avant tout à permettre à l'Église de se tourner vers Dieu dans la prière. Donc ce n'est pas un compendium de doctrine, mais un acte du croyant qui se tourne humblement vers Dieu. Et c'est en tant qu'elles sont actes qu'elles nous enseignent. Alors j'aborde le missel romain. Le missel romain, on pourrait dire que c'est le plus important des livres liturgiques parce qu'il est le livre qui permet de célébrer l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. En ce qui concerne l'eschatologie, il y a plusieurs parties qui nous intéressent. Les prières eucharistiques, les antiennes, les oraisons et les préfaces, qui varient tous les dimanches, si ce n'est tous les jours. Ces oraisons, ces antiennes et ces préfaces vont épouser la dynamique de l'année liturgique. Enfin, il y a quelques fêtes qui nous concernent plus particulièrement. La solennité de tous les saints, le commun des saints, le commun des martyrs et la commémoration de tous les fidèles défunts. Je ne parle pas des lectures, on a déjà consacré pas mal de temps à l'écriture. Et il pourrait être intéressant pour les lectures de voir, tiens, quels sont les textes bibliques qui ont été élus, que l'Église propose. Mais bon, c'est pour un travail pour qui veut. Alors, avant de développer le missel, rappelons quand même que l'Eucharistie est le mémorial de l'eschatologie déjà réalisée en Jésus, une action eschatologique dans le présent, puisqu'elle rend le Christ présent maintenant et qu'il nous intègre à lui, et elle nous tourne vers l'avenir. Donc, on peut dire que l'Eucharistie est célébration de l'accomplissement réalisé, la réalisation de cet accomplissement aujourd'hui et le rappel de l'accomplissement à venir. Donc, en elle se déploie le triple sens spirituel dont j'ai parlé au début, que j'ai repris une fois dans le cours. Elle est le mémorial de l'allégorie, la réalisation de la tropologie, et l'espérance de l'anagogie tout ensemble. Et donc cette richesse explique aussi un peu sa complexité. J'aborde les prières eucharistiques. Comme vous le savez, il y a quatre grandes prières eucharistiques. Ce sont les parties les plus importantes de l'Eucharistie, ce sont celles qu'on retrouve le plus régulièrement. Et dans chacune de ces prières, on retrouve quelques éléments communs. D'abord l'anamnèse, juste après la consécration. On rappelle la mort et la résurrection du Christ, et puis on dit « Viens Seigneur Jésus ». La troisième et la quatrième prière soulignent l'attente, en reprenant cette attente de la jeunesse, en reprenant explicitement cela dans leur prière. Il est dit « alors que nous attendons son dernier avènement » et « en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire ». Et donc, l'offrande du sacrifice se fait à l'intérieur même de cette attente, en vue de ce retour. Dans l'offrande, donc les prières, les intercessions, après, l'Église affirme la communion de tous les membres, dont les saints, déjà au ciel, qui sont avec le Christ, les premiers. Et on cite toujours la Vierge Marie et Saint Joseph, les apôtres et puis tous les saints. Donc on voit bien que Marie et Joseph ont ici la première place. Toute l'Église est après le Christ par eux. Et donc, une dimension sociale très forte. On rentre dans la communion des saints. La deuxième prière eucharistique, dedans, l'Église demande d'avoir part avec eux à la vie éternelle et de chanter l'amour du Père. Donc ça part d'une réalité déjà existante à laquelle on souhaite avoir part. Troisième prière eucharistique dit ceci, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et donc de nouveau ici, le désir de participer au sort des saints est exprimé. On ajoute leur intercession pour les vivants. Ils prient pour nous. On dit qu'il est question des biens à venir et, c'est assez beau, de devenir une éternelle offrande de la gloire de Dieu. Donc le ciel est compris comme une offrande perpétuelle à Dieu. Quelque chose de très dynamique ici. C'est pas statique. Dans la troisième prière eucharistique, on parle de l'espérance d'être comblé de la gloire du Père. Et la quatrième exprime que la vie éternelle, donc on parle de l'éternel, est un héritage qui doit nous être accordé. Elle est cette vie éternelle, le royaume de Dieu. Et ce royaume, c'est une libération du péché et de la mort. Et c'est beau aussi, on dit que c'est valable pour l'homme, mais aussi pour toute la création. L'intercession qui vient après, dans les prières classiques, vise non seulement les vivants, mais après on prie pour les morts. Alors ça dépend un peu des prières classiques, l'ordre varie parfois. La première prière demande au Seigneur de se souvenir, je cite, de ses serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. On implore la bonté de Dieu pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Donc on demande qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Donc dans cette simple prière, qu'est-ce qu'on fait ? On intercède pour les morts qui dorment dans la paix, afin qu'ils obtiennent la paix, la joie et la lumière. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant. D'une part, on dit qu'ils sont déjà dans la paix, en même temps, on prie pour qu'ils le soient encore. Ou qu'ils soient dans la paix. On peut remarquer aussi qu'on prie pour ceux qui ont cru en Christ, et pour ceux qui reposent dans le Christ. C'est pas la même chose. Donc le groupe des défunts pour lesquels on intercède n'est pas restreint à ceux qui ont été marqués du signe de la foi. Alors, on ne parle pas de purification de la prière eucharistique, mais on intercède. Dans la deuxième prière eucharistique, La demande, c'est de se souvenir de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, et de les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Donc ici, il est question de l'espérance, espérance de la résurrection, et le but, c'est d'être reçu auprès du Seigneur. Donc, c'est être avec lui qui est visé, c'est d'être dans sa lumière. Dans la troisième prière eucharistique, on intercède pour, on dit, les frères défunts et les hommes qui ont quitté ce monde. Ici, on est très large. Et il est précisé que Dieu connaît leur droiture. Et donc, nous sommes invités, nous, par cette prière, à une prudence sur le sort des défunts. Dieu seul connaît le secret des cœurs. Et la quatrième prière va dans le même sens. Je la cite. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Après la prière eucharistique, comme vous le savez, il y a la liturgie de la communion. Il y a plusieurs choses significatives qui sont dedans aussi. Donc le Notre Père demande la délivrance du mal. Et la prière reprend, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc ce que Dieu promet est vu comme un bonheur. Et le prêtre peut choisir entre deux prières qui dit à voix basse, la demande de l'une d'elles, c'est de ne jamais être séparé du Christ, d'une part, et dans l'autre, c'est de ne pas être entraîné par la communion au jugement et à la condamnation. Dans la liturgie régulière de la messe, c'est le seul lieu où on parle de la possibilité de la séparation et de la condamnation. C'est quand même assez fort. Et c'était quelque chose que dit le prêtre à voix basse, lui qui célèbre la messe très régulièrement. Donc, le sens de la prière, c'est évidemment que cela ne vienne pas. Hein. Et ce qu'il est dit, la communion peut conduire celui qui ne s'y ouvre pas à sa condamnation. Je passe maintenant aux antiennes, aux oraisons et les préfaces qui épousent la dynamique de l'année liturgique. Pendant l'année, on commémore tout le mystère du Christ, de l'incarnation jusqu'à la Pentecôte et jusqu'à l'attente de l'avènement du Seigneur. Donc, la structure du cycle même exprime déjà l'espérance du retour du Christ. Et le temps de l'Avent, comme expliquent les normes juste avant le mystère, le temps de l'Avent a une double caractéristique. C'est un temps de préparation à Noël et un temps où, en se souvenant de Noël, on se prépare, on se tourne vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps. Et là, on voit bien l'interaction entre les deux moments. Donc, la liturgie distingue bien un double avènement du Christ, le premier déjà réalisé, le second encore à venir. Et c'est en faisant mémoire du premier avènement et en le laissant s'actualiser dans l'Eucharistie que l'Église se tourne vers le second. Vous voyez, donc il y a vraiment tout un mouvement qui est donné. Alors, les prières propres à chaque dimanche, et les préfaces disent cela magnifiquement. L'antienne d'ouverture, qu'on n'entend jamais, parce qu'il y a un chant qui la remplace généralement, dit ceci, « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi, je n'aurai pas à rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. » Donc, d'emblée, c'est l'espérance, mais comme vissée au plus profond de l'homme, qui est exprimée là. C'est l'attente du Seigneur et une foi en sa grande bonté. On peut entendre cet entier dans le sens de l'incarnation, mais aussi dans le sens eschatologique. Les deux sens sont possibles. En même temps, le fait qu'on célèbre la messe après que le Christ soit né, mort et ressuscité, oriente spontanément le regard vers le dernier avènement. Donc, on garde la double valeur et c'est voulu. Dans la raison d'ouverture, il est dit ceci: donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Donc, le regard est tourné vers le retour du Christ. On parle aussi d'un jugement à venir. Et on précise, c'était assez beau, que l'entrée en possession du royaume, c'est de l'ordre de l'appel. Il faut que le Christ m'appelle. Il faut que ce soit lui qui agisse. Et en même temps, il y a moi à aller à la rencontre. Alors, dans la première préface, il est dit, il est déjà venu en prenant la condition des hommes, il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Donc ici, les deux venues sont liées l'une à l'autre. La venue dans la gloire est condition pour que nous possédions les biens promis. Et donc, tant que le Christ n'est pas revenu, il manque encore quelque chose. Dans la prière qui suit la communion, on explique, on lit, on fait un lien entre le retour espéré et l'Eucharistie. Je cite: « Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. » Alors, il y a plusieurs choses dans cette petite phrase toute simple. L'Eucharistie engendre dès maintenant pour l'éternité. Donc l'éternité est le fruit de ce qui se réalise dans l'Eucharistie. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, puisque l'Eucharistie est l'actualisation de la mort et de la résurrection du Christ, et le don du corps et du sang du Christ, sacramentellement présent, c'est par cela que le Seigneur forme l'Église. Donc, l'éternité est fonction de la mort et de la résurrection du Christ, auquel, justement, on peut participer dans la messe, auquel on participe puisqu'on entend, on y est. Troisième chose, ce qui est engendré dans le présent, c'est l'amour même dont nous aimerons Dieu éternellement. Et donc, il y a une identité entre l'amour présent et celui qui se vivra éternellement. Cet amour est le fruit de l'Eucharistie, de la passion de l'Eucharistie et de la résurrection du Christ. Puis une bénédiction solennelle pour le premier dimanche d'Avent. Et cela confirme tout ce qu'on a vu. Le deuxième dimanche d'avant confirme encore cela. Voici que le Seigneur va venir pour sauver les hommes. Et donc ici aussi, on a un jeu sur le double sens de l'événement. Puis, dans le temps d'avant, il y a des prières pour chaque jour spécifiques. De nouveau, souvent on dit « voici que le Seigneur va venir ». Parfois on lui demande de venir, on est encouragé à espérer. Et on demande de pouvoir l'attendre sans faiblir. Bien, c'est beau, il est aussi marqué que ce n'est pas toujours facile de tenir. Donc cette venue, dans cette prière, il est dit que ça équivaudra à la remise de la récompense de tous ceux qui l'auront désiré, à la mise en lumière de ce qui est voilé, au jugement, à la manifestation du Seigneur à toutes les nations. Mais beaucoup de choses sont liées à cette venue. Dans la prière d'ouverture du mercredi de la deuxième semaine, il est dit que Le Seigneur nous rendra les forces et la santé. L'antienne de communion du vendredi parle de la résurrection. On n'en a pas encore parlé à ce moment-là. Et il est dit, « Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. » Donc cette seconde venue est aussi la transformation de nos corps à l'image de celui du Christ ressuscité. Et régulièrement, il y a des prières qui reviennent, il y a des phrases qui reviennent en fonction du jour, il n'y a pas, semble-t-il, de règles. On demande l'amour des biens éternels, de s'attacher à ces biens qui demeurent. Alors, dans une autre prière, on demande encore le bonheur de la vie éternelle. Et la messe de la veille au soir de Noël, dans la prière d'ouverture, l'Église demande de pouvoir regarder le Fils unique sans crainte quand il viendra nous juger. Donc, la première messe de Noël, il y a quatre messes de Noël. Hein. La première messe de Noël, hop, tout de suite, on est renvoyé à la fin. Voilà pour l'avant. Si l'année liturgique est orientée vers cette espérance, elle possède aussi un centre, un sommet. Et ce sommet, c'est la solennité de Pâques. Et quand on voit le déploiement de la liturgie, en fait, c'est autour de cette célébration de Pâques que tout s'est déployé. Et donc, qu'est-ce que ça nous explique? C'est que c'est à partir du mystère pascal qu'il faut comprendre la fin de l'année. Donc, la liturgie elle-même invite aussi, comme on l'avait vu chez Rahner et Balthazar, à une herméneutique résolument christologique. La clé d'interprétation est christologique. Et on peut préciser, elle est pascale. Et durant toute l'année, on célèbre justement cela, particulièrement durant le temps pascal. Déjà au tout début, dans la vigile pascale, on explique que la commémoration de Pâques, enfin, on explique ceci, je me trompe, où il se réalise dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours. Donc on regarde ce que le Christ vit et dit « Ah Seigneur, nous voulons la même chose. C'est cela que nous désirons. » Les prières d'ouverture et de communion vont exactement dans ce sens-là, je les cite, « Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. » Et l'autre dit, « Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. » Donc vraiment, ici, la foi en la résurrection est profondément affirmée. Alors, beaucoup d'autres raisons, évidemment, puisque le temps pascal dure 50 jours, et on parle régulièrement du bonheur sans fin, du bonheur éternel, du bonheur du ciel, impérissable, de la joie du ciel, de la joie éternelle, de la gloire du ciel, de l'immortalité du Christ. Chacun prie pour le savoir, on demande cela. On demande la connaissance de la gloire de Dieu, la participation à la nature divine, à la gloire du Christ, à cette joie au pluriel, à la vie éternelle. Et le septième dimanche de Pâques, la solidarité avec le Christ dans la gloire est notée de manière très forte. Tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ. Vers la fin du temps pascal, donc à l'Ascension, la première préface dit ceci, elle exprime l'espérance des membres du corps de Christ de le rejoindre un jour. Oui, on vient de voir l'Ascension, on dit, mais Seigneur, nous voulons être avec toi là. Et la bénédiction de l'Ascension rappelle qu'il va revenir. Donc, à la montée, on dit, tiens, voilà, il va revenir. Donc on a vu l'avant, on a vu le temps pascal, il y a aussi le carême. On me dit, mais tiens, le carême, quel est le rapport? Le carême a beaucoup de prières où le regard est tourné vers la vie éternelle, vers la joie du ciel, les biens du ciel. Et donc vraiment, le regard est tourné vers la fin pour pouvoir avoir l'énergie de vivre ce qu'il y a à vivre maintenant et pouvoir se détacher de ce qui n'est pas vraiment les biens impérissables. Et donc, dans le mercredi des cendres, on commence très fort, puisque une des grâces qui est demandée, c'est de mieux nous unir à la passion du Christ. S'unir à la passion. Et dans l'introduction du dimanche des Rameaux, c'est dit vraiment très clairement. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc c'est par la mort à soi-même en suivant le Christ qu'on s'unit au Fils et que par là, la vie éternelle nous est donnée. Donc le but, c'est d'être avec le Christ. C'est être avec lui déjà ici-bas pour être avec lui plus tard. Et la commémoration des saints martyrs à ce sujet est éloquente. Dans une des prières, on demande « Cet ardent amour qui donnait à saint un tel la force de souffrir pour toi, pour Dieu, jusqu'au bout. » Une autre dit « Puissions-nous imiter le courage de saint un tel afin de connaître un jour le bonheur du ciel. » Une autre dit encore ceci « Participez comme eux à la passion et à la résurrection de ton Fils. » pour que nous obtenions avec eux la joie parfaite près de toi. Donc vraiment, pour vivre ce qu'on espère, il s'agit de vouloir mourir avec le Christ, d'être uni avec le Christ jusque dans sa passion. Donc la mort est intégrée, comme on l'a vu, il y a un sens proprement chrétien à la mort, c'est d'être avec le Christ là aussi. Puis nous avons les prières dominicales du temps ordinaire. Alors là, je relève simplement comment on parle de l'espérance. On parle de vie éternelle, de bonheur, de ciel, d'éternité bienheureuse. Et on parle du ciel comme une réalité déjà existante. Le bonheur du ciel. Et en célébrant, en fait, les croyants sont déjà en communion avec le ciel et ils reçoivent ce qui est le propre du ciel. Dans la préface des apôtres, on comprend que l'éternité est une acclamation avec les anges de Dieu le Père. Et donc il s'agit d'être associé pour toujours à la vie du Fils et du Père, de participer à la nature divine. Et ce qui est célébré est toujours plein de joie. D'ailleurs, on dit que le Seigneur lui-même est dans la joie. En fait, l'éternité, c'est participer à la joie de Dieu. Nous sommes invités à cela. Et donc, on la demande. Je passe à la solennité de tous les saints. Et aussi à la liturgie des saints. Je prends les deux en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on affirme dans ces-là? Très simplement, qu'ils sont en communion et on dit ce qu'ils font, ils chantent la louange de Dieu. On dit aussi qu'ils intercèdent. On dit qu'ils sont déjà avec le Christ. Vous voyez, toujours, il y a des expressions qui reviennent comme ça, il y a des leitmotivs. Et dans la bénédiction sur la lettre de cette solennité, il est dit que les saints ont part à une fête et qu'ils sont dans la paix du ciel. Et la préface des saints, pour le coup, du commun des saints, souligne que, pas seulement une mais plusieurs, que la communion que nous pouvons déjà avoir avec eux, qui est déjà une communion, qu'ils intercèdent pour vous. Donc, ils sont déjà entrés dans la gloire et ils partagent la gloire de Dieu. J'en viens à la commémoration de tous les fidèles défunts. Donc là, on trouve plusieurs choses. Il y a la commémoration de tous les fidèles défunts proprement dites, et puis les messes anniversaires. Donc, comme vous savez, après le 1er novembre, le 2, on célèbre pour tous les fidèles défunts. Les deux fêtes sont juste à côté, mais sont distinctes. Alors, trois messes sont proposées là par une missel. Dans l'antienne d'ouverture, la dimension christologique est mise en évidence. Jésus, croyons, est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. C'est Dieu qui est ici le sujet. C'est lui qui agit. C'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Donc ici, d'emblée, la perspective, c'est celle de la résurrection. C'est d'être avec Dieu. Et la prière d'ouverture va aussi ressouligner cette espérance de la résurrection. La prière sur l'offrande, par contre, va mettre l'accent sur l'admission dans le royaume. Que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume. Donc implicitement, il est dit, et c'est vraiment implicite, et pourtant bien présent, qu'il n'est pas évident que tous les défunts y soient déjà. Et la prière de communion va dans le même sens. Elle demande au Seigneur d'ouvrir aux défunts sa maison de lumière et de paix. Dans la deuxième messe, on dit ceci: Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs défunts. Que ta douce pitié purifie encore ceux que tu as fait passer par les eaux du baptême. Donc vous avez noté ici, il y a l'idée de purification des péchés, et il y a aussi les causes de cette purification. C'est la douce pitié de Dieu et le sang de Christ. L'image de purification revient dans la prière après la communion. Et dans la troisième messe, la supplique, c'est de pouvoir contempler éternellement le Seigneur. Dans les messes pour les défunts, on trouve quelques expressions différentes. Fais-lui découvrir enfin l'immensité de ton amour. Là aussi, c'est poétique. Immensité et amour vont ensemble. Une autre dit que la bienheureuse passion de ton fils obtienne le pardon qu'il désirait. Alors, il pourra te connaître tel que tu es. Une expression qu'on n'avait pas encore trouvée. Une autre dit qu'ils soient eux aussi victorieux de la mort. Eux aussi, donc, rapport au Christ. Donc, la vie éternelle dans ces prières est perçue comme la découverte de l'amour de Dieu et sa connaissance telle qu'il est, et comme fin de la mort. On retrouve l'idée de purification, de pardon, chaque fois. Et il y a un mot qui revient très souvent, pas seulement dans les messes pour les défunts, mais partout dans les missels, c'est le mot bonheur. Vie éternelle et bonheur, ça c'est vraiment tout le temps. Et, de manière implicite au minimum, revient aussi très très souvent la dimension communautaire de ce bonheur. Voilà pour le missel. Oui, il y a déjà énormément de choses. Alors le rituel des funérailles. L'Église accorde une grande importance à cet événement, à la mort, Et donc, elle entoure de sa prière de multiples manières. Il y a le rituel des funérailles proprement dit, qu'on va un peu approfondir. Mais la prière de l'Église est beaucoup plus large que ce rituel. En fait, l'Église offre divers textes liturgiques pour accompagner les différentes étapes d'un décès. Parmi ces liturgies, beaucoup ne demandent pas nécessairement un prêtre, ni même un diacre. Les laïcs peuvent le faire. Et donc, il y a des prières adaptées à chaque moment, c'est-à-dire de la mort jusqu'à la sépulture. Donc, il y a une offre liturgique, si je peux dire, pour accompagner la mort elle-même, la présence de personnes auprès du défunt, des célébrations et des veillées, la fermeture du cercueil, mais les questions du visage, c'est très beau ça, le départ du corps pour les obsèques, les funérailles proprement dites, et puis le moment au lieu de la sépulture. Mais des prières qui permettent de vivre cela vraiment dans le Christ. Alors, le rituel propose de nombreuses variantes pour s'adapter au mieux aux défunts. Et ce qui est assez marquant, on l'a vu la dernière fois déjà, c'est qu'il y a un rituel spécial pour un enfant déjà baptisé, un petit enfant déjà baptisé, ou même décédé avant d'avoir pu être baptisé. Je commence par le rituel pour les adultes, et puis je vais souligner seulement les spécificités pour les enfants. Donc j'imagine que vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Il y a sept parties, hein, juste dire sept parties. L'accueil du corps, le début de la célébration, la liturgie de la parole, la prière universelle, la liturgie eucharistique, le dernier adieu et la fin de la célébration. Alors 6 ou 7 parce que la messe n'est pas obligatoire. La liturgie eucharistique n'est pas obligatoire. Donc, dans le rituel, il y a un leitmotiv. C'est où on ne cesse de rappeler la mort et la résurrection du Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elle proclame à l'envi la victoire définitive du Christ sur le mal et la mort. Et donc, de nouveau ici, l'axe est résolument christologique. Alors, je prends les 6 étapes, les 7 étapes. Dès la porte de l'église, hein, le célébrant, hein, peut se recueillir devant le corps du défunt. Il y a une prière qui est possible de dire, c'est que le Seigneur l'accueille dans la clarté et dans la paix de son royaume. Puis, il y a l'ouverture de la célébration. Dès l'ouverture, il y a une prière plus spécifique, on dit qu'on est réunis au nom de l'espérance, du Dieu de l'espérance. Et puis, il y a différentes monitions, donc suggestions que le célébrant peut prendre ou en créer d'autres. Mais c'est assez beau. Il est proposé de dire que tous les liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Et un autre affirme que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie d'une personne. Même très beau cette affirmation-là. Dieu connaît le secret des cœurs, il voit ce qui est vrai, beau et grand. Et il l'estime. Ça s'est dit de manière implicite. Après cela, il y a le rite de la lumière. Alors, on prend la lumière au cierge pascal, on allume le cierge qui généralement on se trouve autour du cercueil, mais par là on signifie tout simplement, puisque le cierge pascal est le symbole du Christ ressuscité, que le défunt a eu part de la résurrection du Christ par sa foi sur la terre. Et donc de nouveau d'emblée, là de manière très sensible, hein, c'est l'espérance de la résurrection des morts fondée sur celle du Christ qui est mise en relief. Puis on peut mettre une croix sur le cercueil. Généralement aujourd'hui, la croix est déjà sur le cercueil, donc on ne le fait pas. En fait, il y a aussi une beauté à mettre la croix sur le cercueil. C'est le rappel de la mort du Christ pour vous. Et puis, il y a une préparation pénitentielle pour la messe, comme on a d'habitude. S'il n'y a pas de messe, on peut faire une invocation. Et dans ces invocations, de nouveau, on parle de la mort, de la résurrection du Christ. Et on parle du fruit du Christ, c'est l'arrachement à la mort. Il nous a arrachés à la mort et qui nous a ouvert la vie. Puis, il y a des prières d'ouverture. Alors là, il y a un peu de travail parce qu'il y en a 22. Et donc, voilà, c'est vraiment bien très large. Et donc, on peut vraiment s'adapter à la situation du défunt. Souvent, le rituel, d'ailleurs, dit, c'est bien que le prêtre voit avec la famille, tiens, quelle prière on pourrait peut-être prendre. Souvent, pratiquement, ça ne se fait pas, faute de temps. Alors, les oraisons, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent en compte les vivants. Ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. Leur tristesse, leur doute. Et on demande pour les vivants, lumière, certitude, force, espérance. Et puis, les oraisons vont s'adapter à la situation du défunt. Alors, en faisant cela, c'est assez beau parce que vraiment ça s'adapte parfaitement et ça met en relief différents aspects de ce qui est espéré. Donc, c'est la richesse du ciel qui petit à petit émerge. Hein? Donc, vous en avez quelques-unes. L'oraison pour un jeune demande le bonheur. Et l'éternelle jeunesse de ton Christ. C'est pour quelqu'un qui est mort après une longue maladie, de partager la gloire de la résurrection. C'est pour quelqu'un qui est servi l'Église, la joie du royaume. Le royaume éternel de paix et d'amour. C'est pour un handicapé mental. C'est quand même une en soi qui je trouve, toute la tendresse du cœur du Père, la vie dans sa lumière. Et sa paix, là où chacun est l'égal de son frère. Pour les époux, la plénitude de l'amour de Dieu. C'est beau. Il y a encore d'autres prières, évidemment. On prie pour qu'il passe de la mort à la vie, qu'il reçoive le bonheur de vivre auprès de Dieu, et de célébrer sans fin son amour, qu'il se tienne devant sa face au jour de la résurrection, qu'il contemple Dieu dans toute sa gloire, qu'il voit le visage de Dieu le Père et du Sauveur, que l'âme du défunt soit comblée de la douceur du paradis avec tous les saints, qu'il reçoive le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection, qu'il connaisse la joie auprès de toi qu'il ressuscite au jour où le Christ viendra juger le monde. Et dans quelques oraisons, alors très peu, on demande de délivrer le défunt de tout ce qui le retient loin de Dieu, de lui pardonner ce qu'il a pu faire de mal sur cette terre. Voilà. Vous voyez, vraiment, le regard est orienté de manière très positive. Puis, il y a les lectures. Si c'est la parole de Dieu qu'on est censé lire, alors, je ne les reprends pas. Puis l'homélie, et enfin la prière universelle. Dans l'homélie, je fais une petite parenthèse, il ne s'agit pas de faire un éloge du défunt, mais de voir comment le Seigneur est en train d'agir. Comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté dans la vie de la personne, ce qui est un peu différent. Alors, dans les suggestions qui sont faites pour les intercessions, on peut en inventer, hein, mais toujours quelques-unes qui sont suggérées. On prie pour le défunt et pour les vivants. Et on demande pour ces derniers la consolation. Lors de la liturgie eucharistique, donc il y a la prière pour sur les offrandes, Jésus est décrit comme le juge, mais comme le juge dont il n'y a rien à craindre. Et demander que l'amour de Dieu pardonne aux défunts et qui le purifie Donc ici, de nouveau, le jugement il est vu de manière positive. En ce qui concerne la purification, il est affirmé que c'est l'action de l'amour. C'est l'amour qui purifie. Et dans la prière de communion, on précise que l'Eucharistie purifie et dégage des fautes. C'est pour ça qu'on célèbre souvent la messe. Parce qu'on est sauvé par la mort et la résurrection du Christ rendu présent dans l'Eucharistie. Après cela, il y a le rite du dernier adieu. Alors, avant, on parlait d'absoute. Aujourd'hui, on parle du dernier adieu, c'est plus positif. Et les absoutes soulignaient surtout l'aspect de jugement. Il y avait le dies irae. Et puis, on priait vraiment pour le défunt, pour qu'il soit pardonné et purifié. Dans le rite actuel, au début, on peut choisir parmi plusieurs adresses. Mais toutes invitent à l'espérance. La première dit l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ est victorieux de tout mal triomphera de la mort. La seconde, que Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Et la troisième, qu'un jour nous nous retrouverons. La dernière dit ceci, que le défunt reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise et que nous puissions nous aussi aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Donc toutes ces prières s'appuient sur la réalité de la vie de Dieu dans le défunt et dans la réalité de la vie de Dieu sur ceux qui sont là, sur les vivants qui prient. Et c'est fondé là-dessus qu'on dit, mais oui, nous allons nous retrouver. Et on le demande, bien sûr. C'est-à-dire donc, ils ont tous manifesté, ou ils manifestent dans la célébration, qu'ils veulent accueillir le salut offert en Christ. Alors après l'adresse, il y a un chant qui est proposé, ou une invocation, une intercession. Le chant est très très beau, je ne sais pas si vous le connaissez, sur le seuil de ta maison. Les mots sont chiadés, très très beau. Alors, je ne me suis pas mis dans mon texte. Oui, donc dans le chant, on rappelle que c'est le pardon de Dieu qui délivre et qu'au dernier jour, de nouveau, le Seigneur appellera. Que le défunt se lèvera, qu'il marchera et entrera dans la joie de Dieu. Et un répond qu'il peut donner aussi, là on parle de l'espérance de la résurrection, de contempler Dieu de ses yeux. Le second, de l'introduction dans les demeures du ciel, du don de l'éternel repos, de l'espérance que la lumière, sans déclin, brille aux yeux du défunt. Dans une invocation, on dit aussi que le défunt, ça c'est très beau, appartient déjà à Dieu par l'amour de son Fils. Il appartient déjà à Dieu. Et elle demande donc que le mort vive en présence de Dieu et partage sa gloire. Une autre demande de voir le visage de Dieu, de découvrir sa joie. Il y en a une aussi qui rappelle que le Christ a pleuré Lazare. C'est la seule qui est un peu publique et qui l'a fait revivre les morts. Et en évoquant cela, eh bien, on rappelle que le défunt a été sanctifié par le baptême et nourrit l'Eucharistie. Et donc on demande qu'il reçoive la vie éternelle, la vie des enfants de Dieu en plénitude. Après cela, vous avez le rite de l'enfoncement et de l'aspersion. On ne peut faire que l'aspersion. Mais qu'est-ce qu'on fait? On honore le corps du défunt qui était le temple de l'esprit. Et donc c'est là aussi un signe concret d'espérance. On encense que Dieu, hein. Si j'en encense le corps, c'est parce que le Saint-Esprit était, le corps était temple de l'esprit. Et l'aspersion, c'est le rappel aussi du baptême, c'est-à-dire, petit baptême, c'est ça, c'est l'application à la personne du salut offert par la mort et la résurrection du Christ. Et puis, il y a une. Avant la bénédiction, il y a une oraison, la dernière, l'oraison du dernier adieu. Donc là aussi, il y a pas mal de choix. On demande que Dieu conduise le défunt là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils dans l'Esprit Saint. Vous voyez ici, c'est toute souffrance qui est décrite. Et puis, il y a une dimension trinitaire aussi. Dans la deuxième et la troisième raison, il est dit chaque fois que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Dans la troisième, l'aspect de jugement est implicite, puisqu'on demande que soit pardonné au défunt, je cite, ce qu'il a pu faire de mal, et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le rituel insiste beaucoup sur le salut indispensable offert par le Christ et que ce salut est accueilli dans la vie du chrétien, dans le baptême, la charité, l'Eucharistie. Donc l'espérance de la célébration n'est pas arbitraire. Elle repose sur l'action de Dieu dans le Christ et dans la vie du défunt. On peut discerner quelques lignes de fond de ce rituel. Tout d'abord que le cœur, c'est le mystère pascal. Deuxièmement, c'est que les funérailles sont faites pour des chrétiens. C'est pour des fidèles. Ce qui ne veut pas dire qu'on méprise les autres, mais ici, c'est vraiment pour des chrétiens. Troisièmement, donc, des personnes qui ont accueilli le Christ dans leur vie. Troisièmement, le regard est porté vers l'accomplissement futur, hein, il est chargé d'espérance. Il y a plein d'images qui le montrent. Et on voit que le rituel parle très peu du jugement pour venir. Quand on lit, c'est très très positif. Ça élève, ça fait monter vers Dieu profondément. Mais si on parle très peu du jugement, ça ne signifie pas qu'on en lit la réalité. Donc le climat de ce rituel n'est pas la crainte, mais la confiance en Dieu et l'espérance. Et puis le rituel fait état de l'intercession pour les défunts. Dernier point, ça c'était nouveau, j'ai déjà dit un petit peu, c'est qu'on fait très attention aux vivants. Avant, dans l'ancien rituel, c'était les vivants qui devaient surtout faire quelque chose pour les défunts. Ici, on prend soin de la consolation des vivants. On les aide à vivre ce moment avec le Seigneur. Alors, je parle rapidement des funérailles pour les enfants. La structure est la même que pour l'adulte. Donc, il y a deux cas. Un enfant baptisé, un enfant que les parents voulaient baptiser. Vous avez quelques citations, je vais en prendre quelques-unes seulement. Au jour de son baptême, un tel est devenu enfant de Dieu. Nous n'avons pas à prier pour lui. C'est lui qui prie pour nous. Il est auprès de Dieu. Pour un enfant déjà baptisé. Et une autre prière dit, la vie que cet enfant a reçue de vous, de ses parents, n'est pas détruite par la mort. Dieu la transforme en vie éternelle. Et donc ici, de manière très claire, l'Église affirme sa certitude que l'enfant est auprès de Dieu et qu'il n'a même pas besoin qu'on prie pour lui. Donc il n'y a pas d'obligatoire, autrement dit. Il est dans la communion des saints. En fait, c'est une canonisation là. Après le rite de la lumière, on peut déposer une aube sur le cercueil. Et donc, c'est la même certitude qui est signifiée. je vous lis la prière. Seigneur, regarde avec miséricorde celui dont tu as fait ton enfant, et à qui nous redonnons le vêtement blanc de son baptême. Et après avoir déposé le vêtement, nous avons la ferme espérance que tu l'accueilles auprès de toi, là où il n'y a plus ni larmes, ni douleurs, mais la paix et la joie. Une autre prière dit que l'enfant est entré dans la vie du ciel. Et donc, en fait, la seule prière, c'est de pouvoir faire comme lui. Vivre la même chose que lui. On demande de pouvoir justement croire en cela, malgré la douleur. Et donc, lors de l'encensement, de l'aspersion du nerf à Dieu, c'est de nouveau la même chose qui est dit. Il connaît dès maintenant la plénitude. Alors, chose étonnante, après toutes ces affirmations, il y a quand même quelques raisons finales qui demandent que l'enfant soit introduit dans le paradis ou bien reçu auprès de Dieu. Alors, pour un enfant baptisé, non baptisé, on distingue deux cas. Un enfant mort-né et puis un enfant non baptisé. Il n'y a pas d'explication. Mais la prière est la suivante. Seigneur, tu seras le seul à connaître vivant cet enfant que la mort nous arrache à la naissance. Mais avant même d'être né, n'était-il pas aimé? Toi qui l'aimes aussi depuis le commencement, nous te prions. Puisqu'il n'a pas pu vivre auprès de nous, fais-le vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Donc il y a une espérance ici exprimée dans la liturgie que l'enfant peut être auprès de Dieu. Et pour les enfants morts avant d'avoir été baptisés, on demande surtout le réconfort pour les parents, mais on intercède pour que les parents sachent confier l'enfant à l'amour de Dieu. Donc de nouveau il y a espérance. Alors je conclue, désolé de déborder. Donc l'ensemble, vous le remarquez, est très positif. On parle très peu, peut-être que ce serait bien de le faire un peu plus, mais bon, on peut discuter, de jugement et de purification, de délivrance. On parle un peu plus du pardon des péchés, mais nulle part on ne trouve la mention des enfers. Ça c'était inexistant. C'est plutôt l'acte du Christ qui nous sauve de la séparation avec Dieu qui est mis en relief. On demande chaque fois de nous sauver. Donc, le regard, il n'est pas d'abord tourné vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'état intermédiaire. Il est tourné vers le retour du Christ, vers la résurrection, vers cette plénitude-là. C'est vraiment ce qui est le plus affirmé, de manière récurrente, tout le temps. Alors, après, on décrit aussi cette vie avec Dieu. Et donc, je vous résume un peu toutes les images qui ont été prises, qui ont été données plutôt. C'est être auprès de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit, avec eux, ainsi qu'avec les saints, dans la communion, dans l'égalité entre frères. C'est participer à la gloire de Dieu et du Christ, à la nature divine, à la divinité du Fils, à la joie de Dieu. C'est entrer dans la joie, la paix, la lumière, l'amour de Dieu lui-même. C'est être comblé de biens éternels, du ciel, de joie, de paix, de lumière, d'amour. C'est le bien, c'est le bonheur. C'est une fête, c'est la plénitude. C'est aussi, ça c'est nos images, là vous voyez on fait appel au sentiment, à l'affectivité ici. Puis il y a des images quand même, c'est le royaume, une maison, une demeure. Puis on reprend des choses qui sont plus abstraites. C'est connaître Dieu tel qu'il est, c'est sa gloire, c'est l'immensité et la plénitude de son amour. C'est, après on dit aussi ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait au ciel. On contemple le Seigneur. On contemple Dieu de ses yeux, on voit son visage. Le ciel, c'est le lieu de douceur où on s'offre à Dieu, où on l'acclame avec les anges, où on le glorifie. et cela est éternel, impérissable. On voit que donc que Dieu désire nous rendre la force et la santé, nous faire passer de la mort à la vie, nous donner la victoire définitive sur la mort, nous faire entrer dans sa joie où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur. Et comme je l'ai déjà dit, Dieu se souvient de tout ce qui est vrai, bon et grand dans la vie d'une personne. L'amour est plus fort que la mort. Alors que dire à la fin de ce cours ? Mais je reprendrai une parole de l'Église, de l'Écriture, « Que ton règne vienne ». Je cite l'Apocalypse, « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Le garant de cette révélation, il s'agit de Jésus, l'affirme, « Oui, mon retour est proche. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je vous remercie.